Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, 11e partie. Chapitre 11. L'illustre vieillard exerce depuis un demi-siècle la magistrature de l'ironie. Son génie, qui se flatte de ne respecter rien, est de tous le plus docile et le plus familier. S'il feint la pudeur ou la colère, raille ou menace, c'est pour mieux plaire à ses maîtres et, comme une esclave obéissante, tour à tour mordre ou caresser. Dans la bouche artificieuse, les mots les plus sûrs sont pipés, la vérité même est servile. Une curiosité dont l'âge n'a pas encore émoussé la pointe et qui est l'espèce de vertu de ce vieux jongleur l'entraîne à se renouveler sans cesse, à se travailler devant le miroir. Chacun de ses livres est une borne où il attend le passant. Aussi bien qu'une fille instruite et polie par l'âpre expérience du vice, il sait que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne, et dans sa rage à se contredire et à se renier, il arrive à prêter chaque fois au lecteur un homme tout neuf. Les jeunes grammairiens qui l'entourent portent au nu sa simplicité savante, sa phrase aussi rouée qu'une ingénue de théâtre. Les détours de sa dialectique, l'immensité de son savoir. La race sans moelle, aux reins glacés, reconnaît en lui son maître. Ils jouissent, comme d'une victoire remportée sur les hommes, au spectacle de l'impuissance qui raille au moins ce qu'elle ne peut étreindre, et réclame leur part de la caresse inféconde. Nul être pensant n'a défloré plus d'idées, gâché plus de mots vénérables, offert aux goujats plus riches proies. De page en page, la vérité qu'il énonce d'abord avec une moue libertine, trahie, bernée, brocardée, se retrouve à la dernière ligne, après une suprême culbute, toute nue, sur les genoux de Sganarelle, vainqueur. Et déjà la petite troupe, bientôt grossie d'un public hagard et dévot, salue d'un rire discret le nouveau tour du gamin, bientôt centenaire. « Je suis le dernier des Grecs, » dit-il de lui-même, avec un rictus singulier. Aussitôt, Vanillet, hâtivement instruit d'Homère par ce qu'ils en ont pu lire en marge de M. Jules Lemaître, célèbre ce nouveau miracle de la civilisation méditerranéenne et court réveiller de leur crise aiguë les muses consternées. Car c'est la coquetterie du hideux vieillard, et sa grâce la plus cynique, de feindre attendre la gloire sur les genoux de l'altière déesse, bercée contre la chaste ceinture où il égare ses vieilles mains. Étrange, effroyable nourrisson. Depuis longtemps, il avait décidé de visiter l'ombre, et ses disciples ne cachaient plus aux profanes qu'il y porterait l'idée d'un nouveau livre. Les hasards de la vie, confiait-il à son entourage, sur ce ton d'impertinence familière avec lequel il prétend dispenser les trésors d'un scepticisme de boulevard, baptisé pour lui « sagesse antique », les hasards de la vie m'ont permis d'approcher plus d'un saint, pourvu qu'on veuille donner ce nom à ces hommes de mœurs simples et d'esprit candide, dont le royaume n'est pas de ce monde, et qui se nourrissent, comme nous tous, du pain de l'illusion, mais avec un exceptionnel appétit. Toutefois, ceux-là vivent et meurent reconnus de peu de gens et sans avoir étendu bien loin la contagion de leur folie. Qu'on me pardonne d'être revenu si tard à des rêves d'enfant, je voudrais de mes yeux voir un autre saint, un vrai saint, un saint miracle, et pour tout dire, un saint populaire. Qui sait, peut-être irai-je à l'ombre pour y achever de mourir entre les mains de ce bon vieillard. Ce propos, d'autres encore furent longtemps tenus pour une aimable fantaisie, bien qu'ils exprimassent avec une espèce de pudeur comique un sentiment sincère, bas mais humain, une crainte sordide de la mort. L'illustre écrivain, pour son malheur, n'est que vil, non pas médiocre. Sa forte personnalité, douloureusement à l'étroit dans ses livres, s'est délivrée dans le vice. C'est en vain qu'il s'efforce de cacher à tous, redoublant de scepticisme et d'ironie, le secret hideux qui sue parfois à travers les mots. À mesure qu'il avance en âge, Le misérable se voit traqué, forcé dans son mensonge, de jour en jour moins capable de tromper en hors-d'œuvre et bagatelle sa voracité grandissante. Impuissant à se surmonter, conscient du dégoût qu'il inspire, ne trouvant qu'à force de ruse et d'industrie de rares occasions de se satisfaire, il se jette en glouton sur ce qui passe à portée de ses gencives, et l'écuelle vide pleure de honte. L'idée d'un obstacle à vaincre et du retardement qu'impose la comédie de la séduction, même écourtée, la crainte du fléchissement physique toujours possible, le caprice de ses fringales, le décourage par avance des rendez-vous hasardeux. Aux gouvernantes qu'il entretenait jadis avec un certain décor, succèdent aujourd'hui des gotons et des servantes qui sont des tyrans domestiques. Il excuse de son mieux leur langue familière, affecte une bonhomie navrante, détourne l'attention d'un rire qui sonne faux, tandis qu'il suit de regard à la dérobée le cotillon court sur lequel tout à l'heure il ira rouler sa tête blanche. Mais hélas, cette morne débauche l'épuise sans le rassasier. Il n'imagine rien de plus bas, il touche le fond de son grotesque enfer. Au désir jamais plus âcre et plus pressant, succède un trop court plaisir, furtif, instable. L'heure est venue où le besoin survit à l'appétit, dernière énigme du sphinx charnel. C'est alors qu'entre ce vieux corps inerte et la volupté vainement pressée, la mort se leva comme un troisième camarade. Celle qu'il avait tant de fois caressée dans ses livres et dont il croyait avoir épuisé la douceur, la mort, d'ailleurs partout visible à travers sa froide ironie, comme un visage sous une eau claire et profonde, 100 fois rêvée, savourée, il ne la reconnut pas. Il la voyait désormais de trop près, bouche à bouche. Il avait choisi l'image d'une lente vieillesse, à la pente douce et fleurie, et qui s'endort contente au dernier pas. Mais il n'attendait point cette surprise en plein jour, cette effraction, et quoi, déjà? Il s'efforce d'en chasser la pensée, de la déguiser au moins. Il dépense à ce jeu misérable des ressources infinies. À peine ose-t-il confier au plus intime quelque chose de son angoisse, et ils ne l'entendent qu'à demi. Nul ne veut voir dans les yeux du grand homme le regard tragique où s'exprime une terreur d'enfant. « Au secours !» dit le regard. Et l'auditoire s'écrie « Quel merveilleux causeur !» Chapitre 12. Monsieur Gambillet s'avança vers le célèbre auteur du « Cierge Pascal » et se présenta lui-même non sans esprit, car il ne manque tout à fait ni de malice ni d'à-propos. Puis, se tournant vers son compagnon et lui donnant la parole, « Monsieur le curé de Luzarne, fit-il, est plus qualifié que moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce miraculeux pays de l'Imbre, à 2 pas de la petite église que vous êtes venu visiter. » Antoine Saint-Marin pencha vers l'abbé Sabirou sa longue face blême, le considérant de haut en bas avec ennui. « Cher et illustre maître, dit alors celui-ci d'un ton mesuré, je ne m'attendais pas à vous voir jamais d'aussi près. Le ministère que j'exerce au fond de ces campagnes nous condamne tous à l'isolement jusqu'à la mort, et c'est un grand malheur que le clergé de France soit ainsi tenu à l'écart de l'élite intellectuelle du pays. Qu'il soit au moins permis à l'un de ses plus humbles représentants. » Saint-Marin secoua de haut en bas cette fine main blanche qui immortalise le tableau de Claudius Nivelin. L'élite intellectuelle du pays, monsieur l'abbé, est une société bien bruyante et bien désagréable que je vous conseillerais plutôt de tenir éloignée de vos presbytères. Et pour l'isolement, ajouta-t-il avec un petit rire, puissais-je y avoir été jadis condamné comme vous? L'ancien professeur de chimie, à moment déconcerté, choisit de sourire aussi, mais le jeune docteur de Chavranches, déjà familier, « Allons, allons, l'abbé, vous voilà comme un bourgmestre à l'entrée du roi dans sa bonne ville. L'illustre maître n'a pas fait 100 lieues pour s'entendre louer. Dois-je l'avouer, monsieur? Continua-t-il en s'inclinant vers Samarin. Je suis prêt moi-même à commettre envers vous une faute plus grave. Ne vous gênez pas, répondit le romancier d'une voix douce. Permettez-moi seulement de vous demander pour quel motif. N'ajoutez pas un mot, si vous tenez à mon estime, s'écria l'auteur du cierge pascal. Je devine que vous désirez connaître la raison qui m'a déterminé à entreprendre ce petit voyage. Or, grâce à Dieu, je n'en sais pas là-dessus plus long que vous. Le travail de composition, jeune homme, est le plus ennuyeux et le plus ingrat de tous. C'est bien assez de composer mes livres, je ne compose pas ma vie. Cette page-ci est une page blanche. J'espère que vous l'écrirez, cependant, soupira le curé de Luzerne, et j'ose dire que vous nous la devez. Le regard toujours un peu vague de l'illustre maître tomba de haut sur ce Benoît quémandeur et le fleura sans se poser. Puis il demanda, les yeux mi-clos, « Ainsi, nous attendons tous les trois le bon plaisir d'un saint. » « Les clés du sanctuaire, d'abord, remarqua l'enfant terrible de Chavranche, et le bon plaisir du sacristain Ladislas. »« Comment cela ? » fit Samarin, sans daigner voir le geste du curé de Luzerne demandant la parole. Mais Gambillet, plus prompt, fit à sa manière le récit des événements de la journée, 20 fois repris par son sourcilleux compagnon, qu'un léger mouvement d'impatience de l'illustre maître rejetait chaque fois au néant. Lorsqu'il eut tout entendu, « Ma foi, monsieur, dit le romancier, je n'espérais pas tant d'une journée mal commencée. Oh, la rafraîchissante surprise d'un peu de surnaturel et de miraculeux !»« Surnaturel et miraculeux ?» protesta d'une voix grave le curé de Luzerne. « Pourquoi pas ?» demanda brusquement Saint-Marin, se retournant tout d'une pièce vers son inoffensif ennemi. Si bas que le grand homme soit tombé, la bêtise toute nue lui fait honte. Mais il redoute par-dessus tout de rencontrer son image dans la sottise ou la lâcheté d'autrui, comme dans un tragique miroir. « Pourquoi pas » répéta-t-il plutôt sifflant qu'épelant chaque mot entre ses longues dents jointes. « Nous espérons tous un miracle, monsieur, et le triste univers l'appelle avec nous. Aujourd'hui ou dans un millier de siècles, que m'importe ? Si quelque événement libérateur doit faire brèche un jour dans le mécanisme universel. J'aime autant l'attendre pour demain et m'endormir content. De quel droit la brute polytechnique viendrait-elle m'éveiller de mon rêve? Surnaturel et miraculeux sont des adjectifs pleins de sens, monsieur, et qu'un honnête homme ne prononce qu'avec envie. » De son aveu, jamais le curé de Luzerne ne se sentit plus injustement mortifié. Monsieur Samarin, confia-t-il à son ami Gambillet, m'a paru plus poète que philosophe et capable d'interpréter à sa guise des paroles d'autrui. Mais quelle raison de se mettre en colère ? L'auteur du cierge pascal lui-même eût été bien embarrassé de répondre, car il hait d'instinct ce qui lui ressemble et goûte sans l'avouer l'amère ivresse de se mépriser chez les autres. Mieux que personne, il sait par quelle nuance légère et fragile l'homme qui ne fait profession que d'esprit se distingue du sot, et dans certains niais bien disants, le vieux cynique flaire avec rage à petit de la même portée. « Si vous n'avez point vu l'ermite, reprit le docteur de Chavranche, pour rompre le silence, au moins connaissez-vous l'ermitage ? Quelle curieuse maison ! Quelle solitude ! J'étais tout à l'heure sous le charme, dit Samarin. Il n'y a de vraiment précieux dans la vie que le rare et le singulier, la minute d'attente et de pressentiment. Je l'ai connu ici. » Monsieur Gambillet hocha la tête, approuva d'un sourire prudent. Cependant, le grand vieillard, s'approchant de la fenêtre, commença de promener ses longs doigts sur les vitres. La lumière de la lampe faisait danser son ombre au mur, la diminuant et l'allongeant tour à tour. Au dehors, les yeux ne distinguaient rien que la tache blême de la route. Et dans le profond silence, le docteur de Chavranche entendait le léger grincement des ongles sur le verre poli. La voix de Saint-Marin le fit tout à coup sursauter. « Ce diable de sacristain, dit-il, veut nous tuer de mélancolie. Je suis une grande bête d'attendre et de bâiller ici, quand j'ai devant moi tout un jour, car je ne quitterai l'Imbre que demain, et puis, ma parole, je suis bizarrement rompu. » D'ailleurs, remarqua M. Gambillet, si les imaginations de l'abbé Sabirou ont quelque réalité, son pauvre confrère sera hors d'état de vous entretenir ce soir. Pour cette fois, d'ailleurs, répondit l'illustre maître, c'est assez de connaître ce presbytère campagnard, un lieu unique. Il désignait la pièce aux quatre murs nus d'un geste caressant, comme un rarissime bibelot a tenté le collectionneur. Cette simple phrase fut à l'amour-propre du curé de Luzarne comme un baume. « Je dois vous faire remarquer, dit-il, que cette salle est improprement désignée sous le nom d'oratoire. Mon vénéré confrère s'y tient rarement. À vrai dire, il ne quitte guère sa chambre. « Ouais ?» fit l'auteur du cierge pascal intéressé. « Je me ferai une joie de vous y conduire, » s'empressa le futur chanoine. « Monsieur le curé de l'Imbre, j'en suis sûr, vous donnerez volontiers cette marque d'égard, et je ne ferai qu'interpréter sa pensée. » Il prit la lampe, l'éleva au-dessus de sa tête, puis, marquant un petit temps, la main sur le bouton de la porte. « Si ces messieurs veulent me suivre. » Au premier étage, le curé de Luzarne, désignant à l'extrémité d'un long couloir une porte entr'ouverte, « Permettez-moi de vous précéder, » fit-il. Ils entrèrent après lui. La lampe, tenue à bout de bras, éclairait une longue salle mansardée, peinte à la chaux, et qui parut d'abord absolument vide. Le parquet de sapin récemment lavé exhalait une odeur tenace. Quelques meubles ingénument rangés contre la muraille apparurent dénoncés par leurs ombres, deux chaises de paille, un prie-dieu, une courte table chargée de livres. « Cela ressemble à n'importe quel grenier d'étudiants pauvres, » dit Saint-Marin déçu. Mais le futur chanoine, infatigable, les entraînait plus loin, penchant vers le sol son lumignon fumant. « Voilà son lit, » dit cet homme incomparable, avec une espèce de fierté. L'enfant terrible de Chavranche et l'écrivain, pourtant tous deux sans vergogne, échangèrent par-dessus le large dos un sourire gêné. La paillasse, ridiculement étroite et menue, couverte d'un amas de hardes, faisait à elle seule un spectacle d'une assez pitoyable mélancolie. Cependant, Saint-Marin la vit à peine. Il regardait deux gros souliers béants, verdis par l'âge, l'un debout, drôlement campé, l'autre à plat, montrant ses clous rouillés, son cuir gondolé, le retroussi de sa semelle. Deux pauvres vieux souliers pleins d'une lassitude infinie, plus misérables que des hommes. « Quelle image ! » dit-il à voix basse. « Quelle ridicule et merveilleuse image !» Il pensait à la fuite circulaire de toute vie humaine au chemin vainement parcouru au suprême faux pas. Qu'était-il allé chercher si loin, ce vagabond magnanime? La même chose qu'il attendait lui-même au milieu des objets familiers, ses chères estampes, ses livres, ses maîtresses et ses courtisans, dans l'hôtel de la rue de Verneuil où mourut Madame de Janzé. Jamais le patriarche du néant, à ses meilleures heures, ne s'éleva plus haut qu'un lyrique dégoût de vivre, un nihilisme caressant. Néanmoins, sa gorge se serra, son cœur battit plus vite. Alors il parla d'abondance. « Nous sommes ici, dit-il, dans un lieu consacré, aussi vénérable qu'un temple. Si le vaste monde est un champ clos, la place vaut d'être marquée où fut donné le grand effort. » Tenter la plus folle espérance. Les anciens eussent considéré sans doute notre sein de l'Imbre avec mépris, mais une longue expérience du malheur nous a rendus moins sévères pour cette espèce de sagesse, un peu barbare, qui trouve dans l'élan même de l'action sa raison d'être et sa récompense. La différence est moins grande qu'on imagine entre celui qui veut tout étreindre et celui qui repousse tout. Il y a une grandeur sauvage que la sagesse antique n'a pas connue. La belle voix grave de l'illustre écrivain resta comme perchée sur la dernière syllabe, tandis que son regard se fixait à l'angle du mur où le diligent Sabirou promenait à ce moment la lumière de sa lampe. Dans une sorte de renfoncement formé par l'arête extérieure du toit, une planchette grossièrement clouée supportait un crucifix de métal. Au-dessous, jeté sur le sol dans le coin le plus obscur, une lanière repliée, de celle que les toucheurs de bœufs nomment coutelas, aiguë à sa pointe, large de 3 doigts à sa base, pareille à un plat serpent noir. Mais ni le crucifix ni le fouet ne retenaient le regard du maître. C'était, à hauteur d'homme, une singulière éclaboussure couvrant presque un pan de la muraille, faite de 1000 petites traces si rapprochées vers le centre qu'elles n'y formaient plus qu'une masse unique, d'un roux pâli, quelques-unes plus fraîches, d'un rose encore vif, d'autres à peine visibles dans l'épaisseur de la chaux, comme absorbées, desséchées d'une couleur indéfinissable. La croix, le fouet de cuir, la muraille rougie, cette grandeur sauvage que la sagesse antique, l'éminent musicien n'eut pas le courage de plaquer son dernier accord et cessa brusquement sa chanson. Immobile, M. Gambillet bredouilla plusieurs fois dans sa moustache les mots de « folie mystique », guettant en dessous sa marin muet. L'irrésistible confident de la société chavranchaise, si vif à retourner un drap sur des nudités lamentables, et qui se vanta souvent de tout regarder et de tout entendre avec un front d'airain, eut, comme il l'avoua plus tard, froid dans le dos. Le plus épais des hommes ne voit pas sans trouble violer devant lui l'humble secret d'un grand amour. La part réservée du pauvre, son seul trésor, et qu'il emporte avec lui. Monsieur le curé de Luzerne, détournant la lampe, dit aussitôt avec un naturel parfait « Mon vénérable ami, messieurs, se maltraite et compromet gravement sa santé. Dieu me garde de blâmer son zèle, mais je dois dire que ces violences contre soi-même, non pas prescrites, seulement tolérées, furent néanmoins regardées par plusieurs comme un dangereux moyen de sanctification, et trop souvent le scandale des faibles ou la risée des impies. » L'ancien professeur appuya ce dernier mot d'un geste familier, le pouce et l'index joints, le petit doigt levé, du ton d'un homme qui précise un point contesté. L'embarras du docteur, le silence de l'autre, lui parurent une preuve assez flatteuse de leur bienveillante attention. Il le marqua d'un sourire, puis partit content, car le prêtre médiocre est, entre tous, impénétrable. « Que ce grand homme est donc nerveux !» se disait Gambillet, marchant sur les talons de Saint-Marin et regardant curieusement la longue main d'ivoire crispée sur la canne, dont elle frappait parfois le sol à petits coups. Depuis quelques instants, l'auteur du cierge pascal faisait en effet, pour cacher son trouble et se surmonter, un effort presque héroïque. Sans doute, il n'était pas resté insensible à cette lugubre poésie de la maison du pauvre, mais il y a beau temps que le romancier n'est plus dupe d'aucun battement de son vieux cœur. L'émotion, à peine formée et comme à l'état naissant, est aussitôt mise en ordre, utilisée. C'est la matière première qu'accommode au goût de l'acheteur son industrieux génie. Le vieux comédien n'est accessible que par les sens. La tache rousse sur le mur, dans l'auréole de la lampe, avait mis ses nerfs à nu. On connaît de lui, on sait de mémoire 20 pages effrontées, où, de toutes les ressources de son art, le malheureux s'exerce à conjurer son intraitable fantôme. Nul n'a parlé plus librement de la mort, avec plus de nonchalance et d'amoureux mépris. Nul écrivain de notre langue ne semble l'avoir observé d'un regard si candide, raillé d'une moue si moqueuse et si tendre. Pour quelle mystérieuse revanche la plume posée, la craint-il comme une bête, comme une brute? À l'idée de la chute inexorable, ce n'est pas sa raison qui cède au vertige, c'est la volonté qui fléchit, menace de se rompre. Ce raffiné connaît avec désespoir le soulèvement de l'instinct, l'odieuse panique, le recul et le hérissement de l'animal qui, à l'abattoir, vient flairer le mandrin du tueur. Ainsi, jadis, si l'on en croit Goncourt, le père du naturalisme et des Rougon-Macquart, réveillé en pleine nuit par les mêmes affres, se jetait au bas du lit, donnant le spectacle d'un accusateur en bannière et tremblant de peur à son épouse consternée. Debout, sur la première marche, le visage tourné vers la cage obscure, les tempes serrées, la gorge sèche, il respire à grands coups, seul remède à de telles crises. Derrière lui, Gambillet, bloqué, s'étonne, écoute avec inquiétude le souffle irrégulier, profond, du maître. Il appuie légèrement la main sur son épaule. « Seriez-vous souffrant ? » dit-il. Saint-Marin se détourne avec peine et répond d'une voix fausse. « Non pas, non pas. Un malaise, une légère suffocation. Cela va mieux, tout à fait bien. » Mais il se sent encore si faible et si lâche que la banale sympathie du médecin de Chavranches est incroyablement douce à son cœur. Dans l'euphorie de la détente nerveuse, il est ainsi souvent tenté de parler, de donner son secret, de mendier au plus près un conseil et un appui. Par bonheur, l'amour-propre engourdi le réveille toujours à temps de son mauvais rêve. « Docteur, dit-il avec un sourire paternel, l'expérience vous fera connaître que les voyages ne peuvent plus former la vieillesse, mais seulement hâter sa fin. Avantage encore précieux, car au dernier détour, lorsqu'un vieux bonhomme souhaite et redoute le petit faux pas qui le précipite au néant, un rien de brusquerie est quelquefois nécessaire. Le néant ? Proteste poliment le curé de Luzerne. Voilà, maître, un bien gros mot. Saint-Marin, par-dessus l'épaule du Chavranchet, considère une seconde son insupportable galant. « Qu'importe le mot, fait-il, a-t-on le choix ?»« Il y a des mots si désespérés, si douloureux, » s'écrie le pauvre prêtre, déjà pâlissant. « Permettez, » poursuit l'auteur du cierge pascal, « je n'espère pas qu'une syllabe de plus ou de moins va me conférer l'immortalité. » « Je me fais mal comprendre, » riposte le futur chanoine, enragé de conciliation. « Sans doute un esprit comme le vôtre se fait, de la vie future, une autre image, probablement, que le commun de nos fidèles. Mais je ne puis croire que votre haute intelligence accepte sans révolte l'idée d'une déchéance absolue, irrémédiable, d'une dissipation dans le néant. » Les derniers mots s'étranglent dans sa gorge, tandis qu'il implore des yeux, avec une émouvante confusion, l'indulgence, la pitié du grand homme. La férocité du mépris que Saint-Marin témoigne au sot étonne d'abord, car il affecte volontiers par ailleurs un scepticisme complaisant. Mais c'est ainsi qu'il peut manifester au dehors, avec un moindre risque, sa haine naturelle des infirmes et des faibles. « Je vous remercie, dit-il au curé de Luzerne, de me réserver un autre paradis que celui de votre vicaire et de vos chantres. Les dieux me préservent cependant d'aller chercher là-haut une nouvelle académie quand la seule française m'ennuie assez. » « Si j'entends bien votre raillerie, répond le futur chanoine, vous m'accusez... »« Je ne vous accuse pas !» s'écrie Saint-Marin tout à coup avec une extraordinaire violence. « Sachez seulement que je craindrai moins le néant que vos ridicules Champs-Élysées. »« Champs-Élysées, Champs-Élysées, » ronchonne le bonhomme abasourdi. « Loin de moi la pensée de défigurer l'enseignement. Je voulais seulement mettre à votre portée, parlant votre langage. »« Ma portée, mon langage, » répète l'auteur du cierge pascal avec un sourire empoisonné. Il s'arrête un moment, reprend haleine. La lampe, qui tremble dans les mains du curé de Luzerne, éclaire en plein son visage blême. La bouche mauvaise s'abaisse au coin, comme pour un haut-le-cœur. Et c'est son cœur, en effet, son vrai cœur, que le vieux comédien va cracher une fois pour toutes aux pieds de ce prêtre stupide. Je sais ce que m'offrent les plus éclairés de vos pareils, l'abbé. L'immortalité du sage, entre Mentor et Télémaque, sous un bon Dieu raisonneur. J'aime autant celui de Béranger en uniforme de garde nationale. L'antiquité de Monsieur Renan, la prière sur l'acropole, la graisse de collège. Des blagues. Je suis né à Paris, l'abbé, dans une arrière-boutique du Marais, d'un papa Beauceron et d'une mère Tourangelle. J'ai répondu la messe comme un autre. Si j'avais à me mettre à genoux, j'irais encore tout droit à ma vieille paroisse de Saint-Sulpice. On ne me verrait pas faire des grimaces aux pieds de Pallas Athénée comme un professeur ivre. Mes livres, je me moque bien de mes livres. Un dilettante, moi, un bec fin, j'ai pris de la vie tout ce que j'ai pu prendre, entendez-vous, à grande lampée, la gorge pleine. Je l'ai bu à la régalade. Advienne que pourra. Il faut en prendre son parti, l'abbé. Qui jouit, craint la mort. Autant s'essayer à la regarder en face que se distraire au bouquin des philosophes, ainsi qu'un patient chez le dentiste feuillette les journaux illustrés. Un sage couronné de roses, moi, un bonhomme antique. Ah, il y a tel moment où l'adoration des niais vous fait envier le pilori. Le public ne vous lâche plus, veut toujours la même grimace, n'applaudit qu'elle, et demain nous traitera de menteurs et de baladins. Ah, eh, si les bigots savaient peindre, au fond nous sommes dupes, l'abbé, repique et capot. Un gâcheur de plâtre qui ne songe qu'à se remplir les tripes montre plus de malice que moi, jusqu'à la dernière minute il peut espérer boire et manger son sou. Mais nous, on sort du collège avec des illusions de poète. On ne voit rien de plus désirable au monde qu'un beau flanc de marbre vivant. On se jette aux femmes à corps perdu. À 40 ans, on couche avec des duchesses. À 60, il faut déjà se contenter d'aller riboter avec des filles. Et plus tard, on porte envie à des hommes comme votre saint de Limbre, qui, eux, au moins, savent vieillir. La voulez-vous, ma pensée, la pensée de l'illustre maître, ma pensée toute crue, quand on ne peut plus... Il acheva sa phrase, toute crue, en effet, dans une véritable explosion de dégoût. Les traits si fins eurent alors cette expression d'hébétude, le rictus sournois, l'effrayante immobilité du vice sur un visage de vieillard. Gambier l'observait en dessous avec un sourire cruel. Le curé de Luzarne avait reculé de 2 pas. Sa détresse à ce moment eût attendri le baron Saturne de l'immortel Villiers. « Voyons, voyons, maître, bégaya-t-il, la religion dont je suis le ministre a des trésors d'indulgence, de charité. Le scrupule touchant le dogme peut, doit en quelque mesure, s'accorder avec une paternelle sollicitude, une bienveillance particulière même, pour certaines âmes exceptionnelles. Je ne croyais pas qu'un effort sincère de conciliation, de synthèse, une certaine largeur de vue, la vie future selon l'enseignement de l'Église. » Les arguments se pressaient dans sa pauvre cervelle confuse. Il eût voulu les donner à la fois, sa pensée sautant de l'un à l'autre comme l'aiguille affolée d'une boussole. Alors le robuste vieil homme marcha vers lui, le masquant de ses larges épaules. « La vie future, l'enseignement de l'Église, » s'écria-t-il en le défiant de ses yeux pâles. « Y croyez-vous, là? Y croyez-vous sans barguigner, tout bêtement, oui ou non ?» Et certes, il y avait dans la voix de l'auteur du « Cierge Pascal » peut-être autre chose que l'accent d'un injurieux défi. Mais qui peut espérer tenir le curé de Luzarne dans les 2 branches de la pince? Il n'a jamais douté sérieusement des vérités qu'il enseigne, simplement parce qu'il n'a jamais douté de lui-même, de son critère infaillible. Il hésite, pourtant. Il cherche en hâte une formule heureuse, un de ses mots adroits. Hélas, son redoutable adversaire le serre décidément de trop près. Il élève vers lui une main qui demande grâce. « Comprenez-moi bien, commence-t-il d'une voix mourante. » Saint-Marin lui jette un regard véritablement flambant de haine. Puis il lui tourne le dos. L'infortuné s'efforce en vain. La phrase commencée s'étrangle dans sa gorge, tandis que montent à ses yeux de vraies, de honteuses larmes. Monsieur Gambillet ne comprit jamais par quel miracle une conversation d'abord paisible, haussant de ton par degrés, put s'achever dans un tel désordre qu'ils s'entrevirent un moment, tous les trois, sous la lumière de la lampe, face à face, ainsi que d'irréconciliables ennemis. C'est qu'ils vivaient une de ces minutes singulières où la parole et l'attitude ont chacune un sens différent. Lorsque les témoins s'interpellent sans plus s'entendre, poursuivent leur monologue intérieur et, croyant s'indigner contre autrui, s'animent seulement contre eux-mêmes, contre leurs propres remords, comme les chats mystérieux jouent avec leur ombre. Dans le silence qui suivit, gros d'un nouvel orage, la porte extérieure s'ouvrit tout à coup et les marches de l'escalier craquèrent une à une sous un pas pesant. Leur surexcitation était telle qu'ils se regardèrent avec une espèce de terreur sacrée, mais en reconnaissant le calme visage de Marthe, l'abbé Sabirou le premier respira. « En voilà bien d'une affaire !» marmottait la vieille essoufflée. Puis, sur la dernière marche, frappant un petit coup son tablier pour le défriper, elle observa les trois hommes d'un regard rapide. « Ladislas vous attend, messieurs, » dit-elle. Ils la suivirent jusqu'à la porte du jardin, docilement, sans parler. Le ciel était plein d'étoiles. « Ladislas aura pris les devants, » reprit la servante, en montrant du doigt une lanterne balancée dans l'ombre à travers le cimetière. « J'entends son pas. Vous trouverez l'église ouverte. » Un instant, elle retint le curé de Luzerne par sa manche et, dressée sur la pointe de ses galoches, lui glissa ces mots à l'oreille. « Faites-lui entendre raison, au moins. Depuis hier soir, il n'a pas mangé, si c'est Dieu possible. » Elle disparut sans attendre la réponse. Le futur chanoine rattrapa ses deux compagnons sous le porche. Au-dessus d'eux, la haute église s'enlevait dans la nuit, incomparablement vive et claire. On entendait au-dedans les souliers ferrés du sacristain traînant sur les dalles. « Nous continuerons donc à courir ensemble notre aventure, » dit aimablement Saint-Marin à l'ancien professeur, auquel le sourire du grand homme rendit la vie. « Je n'aurai pas le cœur de dîner avant que vous n'ayez remis la main sur votre insaisissable sein. Et d'ailleurs, il ne faut pas moins que cette intervention d'en haut pour clore ce soir nos petites querelles. » La fraîcheur de l'air après l'averse dissipait sa mauvaise humeur. Hors de la pauvre chambre du curé de l'Humbre et du cercle enchanté de la lampe sur le mur, son accès de fureur n'était guère plus qu'un méchant rêve. « Entrons donc, » dit simplement Sabirou, mais avec quel regard de gratitude. Dès qu'il les aperçut, Ladislas se hâta vers eux. Le futur chanoine l'accueillit d'un ton gaillard. « Eh bien, Ladislas, dit-il, quoi de neuf ?» Le visage du bonhomme exprimait une stupéfaction profonde. « Notre curé n'est point là, » dit-il. « Par exemple, » s'écria Sabirou d'une voix dont l'écho roula longtemps sous les voûtes. Il croisait les bras, révolté. « Soyons sérieux, » reprit-il. « Êtes-vous si sûr que... »« J'ai tout visité, » répondit Ladislas, « coin par coin. Je pensais bien le trouver à la chapelle des anges. » Il y va chaque jour après souper, dans un petit coin qu'il faut connaître. Mais ni là ni ailleurs, j'ai fouillé jusqu'à la tribune, ainsi. « Mais que supposez-vous ? » intervint Gambillet. « Un homme ne se perd pas, que diable !» Le futur chanoine approuva d'un signe de tête. « Pour moi, » dit Ladislas, « monsieur le curé a pu sortir par la sacristie, gagner la route de Verneuil jusqu'au calvaire de Roux. C'est une promenade qu'il aime à faire, la nuit tombante, en récitant son chapelet. Ah ah, soupira bruyamment le docteur de Chavranche. Laissez-moi finir, reprit le sacristain. À l'heure où nous v'là, 20 minutes avant le salut du Saint-Sacrement, il serait rentré depuis longtemps. J'ai bien réfléchi là-dessus. Il était ce soir si faible, si pâle, à jeun depuis hier soir. À mon idée, il a pu tomber de faiblesse.
Je commence à le craindre, dit Sabirou. Il réfléchit un moment, les bras toujours croisés, plus d'aplomb que jamais, gonflant ses joues. Tout à coup, son parti fut pris. Je suis désolé, mon cher maître, d'être indirectement la cause d'un dérangement.
Aucun dérangement, protesta le cher maître, décidément radouci.
Je dirais presque, en somme, que l'histoire m'amuse, si je ne devais partager votre inquiétude. Je ne vous proposerai pas toutefois d'aller plus loin sur mes vieilles jambes. Je préfère vous attendre ici.
La course ne sera pas longue, j'espère, conclut l'ancien professeur. Mathématiquement, nous devons le trouver là-bas. Monsieur Gambillet voudra bien m'accompagner. Son assistance m'est plus nécessaire que jamais. Venez avec nous, Ladislas, dit-il au sacristain, et prenez en passant le fils du maréchal, si notre malheureux ami doit être transporté. »
La voix s'éteignit peu à peu dans l'éloignement. La porte se referma sur elle. L'illustre auteur du Cierge Pascal se retrouva seul et sourit.
Chapitre 13. Sourire magique. La vieille église, attiédie par le jour, respire autour de lui d'une lente haleine. Une odeur de pierre antique et de bois vermoulu, aussi secrète que celle de la futaie profonde, glisse au long des piliers trapus, erre en brouillard sur les dalles mal jointes, ou s'amasse dans les coins sombres, pareil à une eau dormante. Un renfoncement du sol, l'angle d'un mur, une niche vide, la recueille comme dans une ornière de granit, et la lueur rouge de la veilleuse au loin, vers l'autel, ressemble au fanal sur un étang solitaire. Saint-Marin flaire avec délice cette nuit campagnarde entre des murailles du XVIe siècle pleines du parfum de tant de saisons. Il a gagné le côté droit de la nef, se ramasse à l'extrémité d'un banc de chêne dur et cordial. Une lampe de cuivre au bout d'un fil de fer se balance au-dessus avec un grincement léger. Par intervalle, une porte bat. Et lorsque tout va faire silence, peut-être, ce sont les vitraux poussiéreux qui grelottent dans leur résille de plomb, au trot d'un cheval sur la route. À cette heure, se dit-il, le docteur Chavranchet et son insupportable compagnon trottent je ne sais où, s'écartent juste assez pour me permettre de jouir en paix d'une heure parfaite, car il croit volontiers à ces politesses du hasard, à des accords mystérieux. Cette église, ce silence, les jeux de l'ombre, voyons, tout est à lui, tout l'attendait. Au moins qu'ils ne reviennent pas trop tôt, souhaite-t-il.
Ils ne reviendront pas trop tôt. Les mourants connaissent bien leurs désirs, mais ils se taisent sur toute chose, disait Mécislas Goldberg, ce vieux juif. L'angoisse de l'éminent maître s'est dissipé peu à peu dans le grand silence intérieur qu'il a si rarement connu. 1000 souvenirs s'y allument, pareils aux petites lumières d'une ville nocturne. Sa mémoire les repasse et jouit de leur confusion, de leur désordre enivrant. À travers les limites tracées par nos calendriers, comme les ans, les jours, les heures s'appellent et se répondent. Un clair matin de vacances où retentit le beau son de cuivre d'une bassine à confiture, un soir où coule une eau limpide et glacée sous un feuillage immobile, le regard surpris d'une cousine blonde à travers la table familiale et la petite poitrine haletante. Et puis, tout à coup, le demi-siècle franchi d'un bond, les premières morsures de la vieillesse, un rendez-vous dénoué. Le grand amour, chèrement gardé, pas à pas défendu, disputé, jusqu'à la dernière minute, lorsque les lèvres du vieil amoureux pressent une bouche mobile et furtive, de mains féroces. C'est là sa vie, tout ce que le temps épargne, qui, dans son passé, garde encore forme et figure, le reste n'est rien, son œuvre, ni la gloire. L'effort de 50 années, sa carrière illustre, 30 livres célèbres, et quoi, cela compte-t-il si peu? Que de niais vont s'écriant que l'art, quel art! Le merveilleux jongleur en connaît seulement les servitudes, il l'a porté comme un fardeau. L'harmonieux bavard qui n'a parlé que de lui ne s'est pas exprimé une fois. L'univers qui croit l'aimer ne sait que ce qui le déguise. Il est exilé de ses livres et par avance dépossédé. Tant de lecteurs, pas un ami. Il n'en éprouve d'ailleurs nul regret. La certitude qu'il échappe ainsi pour toujours, qu'on n'aura de lui qu'un simulacre, fait briller son regard malicieux. Le meilleur de son œuvre ne mérite pas d'autre conclusion que cette plaisanterie in extremis. Il ne souhaite aucun disciple. Ceux qui l'entourent sont des ennemis. Impuissant à renouveler un charme, une gentillesse dont leur maître est le secret, ils se contentent de pasticher adroitement son style. Leurs plus grandes audaces sont dans l'ordre de la grammaire. « Ils démontent mes paradoxes, » dit-il, « mais ils ne savent pas les remonter. » La jeunesse décimée qui vit Peggy couchée dans les chaumes à la face de Dieu s'éloigne avec dégoût du divan où la supercritique polit ses ongles. Elle laisse à Narcisse le soin de raffiner encore sur sa délicate impuissance. Mais elle est déjà, de toutes les forces de son génie, les plus robustes et les mieux venues du troupeau qui brigue la succession du mauvais maître. Distillent en grimaçant leurs petits livres compliqués, grincent au nez des plus grands, et n'ont d'autre espoir en ce monde que de pousser leur crotte aigre et difficile au bord de toutes les sources spirituelles où les malheureux vont boire. Cependant, qu'importe à l'auteur du cierge pascal le grignotement dans son ombre de tant de quenottes assidues? Il a rongé plutôt par nécessité que par goût, avec ennui. Place au jeune rat mieux denté. Ce soir, il pourrait rêver d'eux sans colère. Il songe en frissonnant de plaisir à la grande ville lointaine, à sa foule bouillonnante sous l'énorme ciel noir. La reverra-t-il jamais? Existe-t-elle encore seulement quelque part là-bas dans la nuit si douce? Presque au-dessus de sa tête, l'horloge bat à petits coups comme un cœur. Il ferme un moment les yeux pour mieux l'entendre, vivre et respirer avec elle l'antique aïeul sans âge qui dispense à regret depuis des siècles l'impitoyable avenir. Ce bruit qu'il écoute, perceptible à peine dans la charpente sonore, ce ronron monotone, seulement interrompu par la voix grave des heures, durera plus que lui, cheminera des années et des années encore à travers de nouveaux espaces de silence jusqu'au jour. Quel jour! Quel jour aura marqué pour la dernière fois, au coup de minuit, les deux aiguilles rouillées, les deux commères, avant de s'arrêter pour jamais? Il ouvre les yeux. Devant lui, une plaque de marbre grisâtre scellée au mur porte une inscription dont il déchiffre lentement les larges lettres dédorées. « À la mémoire de Jean-Baptiste M., notaire royal, 1690-1741, et de Mélanie Hortense Lepan, son épouse, de Pierre-Antoine Dominique, de Jean-Jacques M., seigneur d'Emmecourt, de Paul-Louis François, et ainsi jusqu'au bas de la liste, jusqu'au dernier, Jean-César M. d'Emmecourt, capitaine de cavalerie, ancien marguillier de la paroisse, décédé à Cannes en 1889, bienfaiteur de cette église. Priez pour cette famille entièrement éteinte, demande encore la vieille pierre, humblement, comme pour s'excuser d'être là. « Fameuse perte !» murmure l'auteur du cierge pascal entre ses dents. mais il sourit d'un bon sourire de sympathie protectrice. Le copieux morceau de marbre, consciencieusement gravé, rehaussé d'or fin, aussi cossu que n'importe quelle autre pièce de mobilier bourgeois. Rien de plus triste qu'une tombe de pierre blanche aux quatre bornes enchaînées, fouettée par la pluie un jour d'hiver. Mais à l'abri du froid et du chaud, face au banc d'œuvre où le défunt marguillier reçut le pain béni, cette pierre aussi lisse et polie qu'au premier jour, cirée chaque semaine par un sacristain diligent, quelle consolante image de la mort! La sensibilité de l'écrivain s'émeut pour ce confortable posthume. Il épelle tous ses noms comme des noms d'amis dont le voisinage le rassure. Avec cette dynastie des M, que d'autres encore, sous les dalles, aux lettres effacées, çà et là, jusqu'au pied de l'autel, bonnes gens qui voulurent dormir sous un toit, durer aussi longtemps que la sûre assise. On peut rêver dormir là, de compagnie. Jamais le célèbre romancier ne se sentit si résigné, si docile. Une fatigue exquise détend jusqu'à ses dernières fibres, fait flotter devant ses yeux l'image de la profonde église endormie, désormais sans secret, amicale, familière. Il goûte une paix jamais sentie, un extrême bien-être presque religieux. Il se dorlote, il s'étire, il étouffe un bâillement comme une prière. Au dehors, le ciel s'obscurcit, un dernier vitrail du transept s'éteint tout à fait. Désormais, la porte s'ouvre et se referme sur un fond de velours noir, où le monde extérieur ne se dénonce plus que par son parfum. Des ombres éparses se rapprochent, s'assemblent. Un chuchotement discret court au long des travées, de banc de chêne en banc de chêne. Des petits pas impatients gagnent le seuil. L'église se vide peu à peu de son menu peuple invisible. L'heure du salut quotidien est passée depuis longtemps. La sacristie reste close. 3 lampes sur 12 éclairent seulement l'immense vaisseau. Que se passe-t-il? Qu'attendre encore? On se cherche à tâtons, on s'appelle de loin, d'une petite toux caressante, on discute entre initiés. Car dans la dernière diligence automobile de Vaucours, les curieux et les curieuses ont disparu. L'humbre ne garde si tard que ses vieux amis. Les derniers s'éloignent cependant. Saint-Marin va rester seul. Chapitre 14. Pour lui seul, ce grand joujou un peu funèbre, mais charmant tout de même, pour le seul auteur du Cierge Pascal, pour lui seul, il suit amoureusement du regard les nervures de la voûte, réunies en rosaces, et qui retombent 3 à 3 sur les pilastres des murailles latérales, d'un mouvement si souple, d'une grâce vivante presque animale. Le maître maçon qui, jadis, traça leur course aérienne, n'a-t-il pas, sans le savoir, travaillé pour réjouir les yeux du génie vieillissant? Qu'attendent de plus les dévots et les dévotes, et même ce prêtre paysan, lorsqu'ils lèvent le nez vers leur ciel vide, qu'un relâchement de leurs liens, une courte paix, la provisoire acceptation de la destinée? Ce qu'ils appellent naïvement « grâce de Dieu », « don de l'esprit », « efficace du sacrement », c'est ce même répit qu'ils goûtent dans ce lieu solitaire. Pauvres gens dont la candeur s'embarrasse de tant d'inutiles discours. Braves saints campagnards qui croient consommer chaque matin la vie éternelle et dont les sens ne connaissent pourtant qu'une illusion assez grossière, comparable à peine au rêve lucide, à l'illusion volontaire du merveilleux écrivain. « Que ne suis-je venu plus tôt ?» se dit-il, respirer l'air d'une église rustique. « Nos grands-mères 1830 savaient des secrets que nous avons perdus. » Il regrette la visite au presbytère, qui pensa l'égarer, le saut pèlerinage dans la chambre du saint, ce pan de mur dont la vue fit chanceler un moment sa raison. Spectacle en somme un peu barbare et fait pour un public moins délicat. La sainteté, s'avoue-t-il, comme toute chose en ce monde, n'est belle à voir qu'en scène. L'envers du décor est puant et laid. Sa cervelle en rumeur bourdonne de mille pensées nouvelles, hardies. Une jeune espérance, confuse encore, émeut jusqu'à ses muscles. Il ne s'est pas senti depuis bien des jours si souple, si vigoureux. Il y a une joie dans le vieillir, s'écrie-t-il presque à voix haute, qui m'est révélée aujourd'hui. L'amour même, oui, l'amour même peut être quitté sans rudesse. J'ai recherché la mort dans les livres ou dans les ignobles cimetières citadins, tantôt démesurée comme une vision formée dans les rêves, tantôt rabaissée à la taille d'un homme en casquette qui tient en bon état, disent-ils, la clôture des tombes, enregistre, administre. Non, c'est ici ou dans d'autres séjours semblables qu'il faut l'accueillir avec bonhomie, ainsi que le froid et le chaud, la nuit et le jour, la marche insensible des astres, le retour des saisons, à l'exemple des sages et des bêtes. Combien le philosophe peut apprendre de choses précieuses, incomparables, du seul instinct de quelque vieux prêtre tel que celui-ci, tout proche de la nature, héritier de ces solitaires inspirés dont nos pères firent jadis les divinités des champs. Ô l'inconscient poète qui, cherchant le royaume du ciel, trouve au moins le repos, une humble soumission aux forces élémentaires, la profonde paix. En étendant le bras, l'illustre maître pourrait toucher du doigt le confessionnal où le saint de l'Imbre dispense à son peuple les trésors de sa sagesse empirique. Il est là, entre deux piliers, badigeonné d'un affreux marron, vulgaire, presque sordide, fermé de deux rideaux verts. L'auteur du Cierge Pascal déplore tant de laideurs inutiles, et qu'un prophète villageois rende ses oracles au fond d'une boîte de sapin. Mais il considère toutefois avec curiosité le grillage de bois derrière lequel il imagine le calme visage du vieux prêtre, souriant, attentif, les yeux clos, la main levée pour bénir. Qu'il l'aime mieux ainsi que tout sanglant là-haut, face à la muraille nue, le fouet à la main, dans son cruel délire. Les plus doux rêveurs, pense-t-il, ont sans doute besoin de ces secousses un peu vives qui raniment dans leur cerveau les images défaillantes. Ce que d'autres demandent à la morphine ou à l'opium, celui-ci l'obtient des morsures d'une lanière sur son dos et ses flancs. Au bout du fil de fer, la lampe de cuivre oscille doucement, passe et repasse. À chaque retour, l'ombre se déploie jusqu'aux voûtes, puis, chassée de nouveau, s'embusque au noir des piliers, s'y replie, pour se déployer encore. Ainsi passons-nous du froid au chaud, rêve Saint-Marin, tantôt bouillant d'ardeur, effervescent, tantôt froid et las, selon des lois méconnues et sans doute inconnaissables. Jadis, notre scepticisme était encore un défi, l'indifférence même, où nous croyons plus tard tout atteindre, n'est bientôt qu'une pause assez fatigante à garder. Quelle crampe, Seigneur, derrière le sourire épicurien! Mais nos petits-neveux ne réussiront pas mieux que nous. L'esprit humain fait varier sans cesse la forme et la courbure de son aile, attaque sous tous les angles, du négatif au positif, et ne vole jamais. Quoi de plus décrié que ce nom de dilettante, porté jadis avec honneur? La nouvelle génération fut manifestement marquée d'un autre signe. On a su lequel depuis, c'était celui de son sacrifice, sort honorable, envié par les militaires. J'ai vu, tout frémissant d'une impatience sacrée, le jeune Lagrange, pareil à un pressentiment vivant. Il goûte avant moi le repos qu'il a détesté. croyants ou libertins, de quelque mot qu'on nous nomme, ce n'est pas assez que notre recherche soit vaine. Chaque effort hâte notre fin. L'air même que nous respirons brûle au-dedans, nous consume. Douter n'est pas plus rafraîchissant que nier, mais d'être professeur de doute, quel supplice chinois! Encore, dans la force de l'âge, la recherche des femmes, l'obsession du sexe congestionne habituellement les cerveaux, refoule la pensée. Nous vivons dans le demi-délire de la délectation morose, coupé d'accès de désespoir lucide. Mais d'année en année, les images perdent leur force. Nos artères filtrent un sang moins épais. Notre machine tourne à vide. Nous remâchons dans la vieillesse des abstractions de collège qui tenaient de l'ardeur de nos désirs toutes leurs vertus. Nous répétons des mots non moins épuisés que nous-mêmes. Nous guettons aux yeux des jeunes gens les secrets que nous avons perdus. Ah, l'épreuve la plus dure est de comparer sans cesse à sa propre déchéance l'ardeur et l'activité d'autrui. Comme si nous sentions glisser inutilement sur nous la puissante vague de fond qui ne nous lèvera plus. À quoi bon tenter ce qui ne peut être tenté qu'une fois? Ce bonhomme de prêtre a fait moins sottement qui s'est retiré de la vie avant que la vie ne se retira. Sa vieillesse est sans amertume. Ce que nous regrettons de perdre, il souhaite en être au plus tôt délivré. Quand nous nous lamentons de ne plus sentir de pointe au désir, il se flatte d'être moins tenté. Je jurerais qu'à 30 ans, il s'était fait des félicités de vieillard sur quoi l'âge n'a pu mordre. Est-il trop tard pour l'imiter? Un paysan mystique nourri de vieux livres et des leçons de maîtres grossiers dans la poudre des séminaires peut s'élever par degrés à la sérénité du sage, mais son expérience est courte, sa méthode naïve et parfois saugrenue, compliquée d'inutiles superstitions. Les moyens dont dispose à la fin de sa carrière, mais dans la pleine force de son génie, un maître illustre, ont une autre efficace. Emprunter à la sainteté ce qu'elle a d'aimable, retrouver sans roideur la paix de l'enfance, se faire au silence et à la solitude des champs, s'étudier moins à ne rien regretter qu'à ne se souvenir de rien, observer par raison, avec mesure, les vieux préceptes d'abstinence et de chasteté, assurément précieux. Jouir de la vieillesse comme de l'automne ou de crépuscule, se rendre peu à peu la mort familière, n'est-ce pas un jeu difficile, mais rien qu'un jeu, pour l'auteur de beaucoup de livres, dispensateur d'illusions? Ce sera ma dernière œuvre, conclut l'éminent maître, et je ne l'écrirai que pour moi, acteur et public tour à tour. Mais ce dernier livre est celui-là qu'on n'écrit pas, à peine entrevu dans les songes. De le rêver seulement est un signe fatal. Ainsi les vieux chats qui vont mourir caressent encore des griffes la laine du tapis et traînent sur les belles couleurs un regard plein d'une tendresse obscure. C'est ce même regard que l'auteur du Cierge Pascal fixe au mince treillage de bois derrière lequel il imagine son héros bénisseur, patriarche au rire indulgent, à la langue savoureuse et drue, riche de l'expérience des âmes. Il l'aime déjà de tout le bien qu'il peut en attendre. Pour être un saint, on n'en est pas moins sensible à une certaine forme rare de la courtoisie. Cette sympathie attentive, pénétrante, qui est la suprême politesse d'un grand seigneur de l'intelligence. Celui que la flatterie rebute goûte mieux les formes supérieures de la louange. Et d'autres que l'illustre Saint-Marin se sont agenouillés ici, ont écouté le bon vieillard et sont partis moins lourds. Pourquoi pas? sans la confession, l'expérience du péché est-elle jamais complète? N'y a-t-il pas dans la honte de l'aveu, même incomplet, déloyal, une sensation âpre et forte qui ressemble au remords, un remède un peu rude et singulier à l'affadissement du vice? Et d'ailleurs, les maniaques de la libre pensée sont bien sots de dédaigner à l'Église une méthode de psychothérapie qu'ils jugent excellente et nouvelle chez un neurologiste en renom. Ce professeur, dans sa clinique, fait-il autre chose qu'un simple prêtre au confessionnal? Provoquer, déclencher la confidence pour suggestionner ensuite à loisir un malade apaisé, détendu. Combien de choses pourrissent dans le cœur dont ce seul effort délivre? L'homme célèbre qui vit dans son ombre se voit dans tous les yeux, s'entend sur toutes les lèvres, se reconnaît jusque dans la haine et l'envie qui le pressent, peut bien tenter d'échapper à sa propre obsession, de rompre le cercle enchanté. Il ne s'ouvre jamais à l'inférieur, il ment toujours à son égal. S'il laisse après lui des mémoires véridiques, sa dissimulation naturelle se double d'un de ces effrayants accès de vanité posthume que le public connaît assez. Rien n'est moins qu'une parole d'outre-tombe. Alors, il est beau qu'une fois, par hasard, ce don précieux de lui-même, qu'il a toujours refusé, il le fasse au premier venu, comme on jette une poignée d'or à un mendiant. Pas une minute, cet homme pourtant subtil, qui, à défaut de goût véritable, ressent au moins la grossièreté d'autrui comme une contrainte physique, n'échappe au piège de sa propre bassesse. Il remue ses idées pêle-mêle avec une assurance naïve, se flatte de n'avoir qu'à faire un choix entre tant de solides raisons. Il a fini par regarder les marches de bois usées par les genoux avec autant de curiosité que d'envie. Une fois là, le reste va de soi. Qui le retiendrait? Ce qui fut donné si souvent à cette même place aux vieilles filles illettrées ne sera pas refusé sans doute à l'observateur le plus retors et qui garde mieux son sang-froid, délicieux railleur. Il ne faut qu'un petit effort après avoir sucé, vidé tant de sensations rares et difficiles, parlé tant de langage, fait tant de savantes grimaces, pour finir dans la peau d'un philosophe campagnard, désabusé, pacifié, à point dévot. Depuis l'empereur qui planta des raves, on a vu plus d'un grand de ce monde s'assurer une mort bucolique. En argot de coulisses, cela s'appelle « entrer dans son rôle » pour se prendre soi-même à son jeu. C'est ainsi qu'au terme d'une consciencieuse étude, tel comédien, gras à souhait, rouge de plaisir, avale son boc, referme son livre et s'écrie « Je tiens mon polyeucte ». Chapitre 15. Je tiens mon sein, pourrait dire à ce moment l'illustre maître s'il était d'humeur à plaisanter. Et il le tient en effet, ou va le tenir. Il songe, Candide, qu'après avoir tâté d'une dent dédaigneuse les fruits plus précieux cueillis au jardin des rois, il peut mordre encore avec appétit au morceau de gros pain arraché de la bouche du pauvre, car telle est la curiosité du génie toujours neuve. C'est une belle chose de goûter si tard les joies de l'initiation. De Paris à l'Humbre, il est vrai que la route est longue, mais du presbytère tout proche à l'église paisible, quel autre espace il a franchi? Tout à l'heure encore, inquiet, anxieux, sans autre espoir que de rentrer bientôt tête basse au petit hôtel de la rue de Verneuil pour y mourir un jour inutile, oublié, au bras d'une servante qui murmure à la cantonade que le pauvre monsieur a bien du mal à passer. Maintenant délivré, libre, avec un projet en tête, ô délice, une petite fièvre à fleur de peau. En 6 semaines, tout peut être décidé, conclu. Il trouvera, quelque part, à la lisière d'un bois, une de ces maisons mi-paysannes, mi-bourgeoises, entre 2 humides de pelouse verte. La conversion de Saint-Marin, sa retraite à l'Humbre, le cri de triomphe de dévots, la première interview, une délicate mise au point, qui sera comme le testament du grand homme. Une suprême caresse à la jeunesse, à la beauté, au plaisir perdu, non point renié. Puis le silence, le grand silence, où le public ensevelit pieusement côte à côte dans leur solitude de l'Humbre, le philosophe et le saint. L'obsession devient si forte qu'il croit rêver, perd un moment contact, frissonne en se retrouvant seul. Ce réveil trop brusque a rompu l'équilibre, le laisse agité, nerveux. Il regarde avec méfiance le confessionnal vide, si proche. La porte close au rideau vert l'invite. Et quoi ? Quelle meilleure occasion de voir, plus que le pauvre logis du bonhomme, son grabat, sa discipline, le lieu même où il se manifeste aux âmes. L'auteur du cierge pascal est seul et d'ailleurs il s'inquiète peu d'être vu. À 70 ans, sa première impulsion est toujours nette, franche, irrésistible, dangereux privilège des écrivains d'imagination. Sa main tâtonne, trouve une poignée, ouvre d'un coup. L'hésitation a suivi le geste au lieu de le devancer. La réflexion vient trop tard. Un remords indéfinissable, le regret d'avoir agi si vite au hasard, la crainte ou la honte de surprendre un secret mal défendu, lui fait un instant baisser les yeux. Mais déjà, le reflet de la lampe sur les dalles a trouvé l'ouverture béante, s'y glisse, monte lentement. Son regard monte avec lui, s'arrête. À quoi bon ? On ne recouvre plus ce que la lumière découvre une fois pour toujours. 2 gros souliers, pareils à ceux trouvés là-haut, le pli d'une soutane bizarrement troussée, une longue jambe maigre dans un bas de laine toute roide, un talon posé sur le seuil, voilà ce qu'il a vu d'abord. Puis, petit à petit, dans l'ombre plus dense, une blancheur vague, et tout à coup la face terrible, foudroyée. Antoine Saint-Marin s'est montré dans les cas extrêmes une bravoure froide et calculée. D'ailleurs, mort ou vif, ce bonhomme inattendu l'irrite au moins autant qu'il l'effraie. En somme, on l'interrompt tout à coup au bon moment, en plein rêve. Le dernier mot reste au fond de sa boîte obscure à ce témoin singulier, au cadavre vertical. Un professeur d'ironie trouve son maître et s'éveille Kino d'un songe un peu niais, attendrissant. Il ouvre largement la porte, recule d'un pas, mesure du regard son étrange compagnon et, sans oser encore le défier, l'affronte. « Beau miracle » siffle-t-il entre ses dents, un peu rageur. Le brave prêtre est mort ici sans bruit, d'une crise cardiaque. Tandis que ces imbéciles trottent à sa recherche sur les chemins, il est là, bien tranquille, telle une sentinelle tuée d'une balle dans sa guérite, à bout portant. Dressé contre la paroi, les reins soutenus par l'étroit siège sur lequel s'est renversé au dernier moment, arc-bouté de ses jambes roides contre la mince planchette de bois qui barre le seuil, le misérable corps du saint de l'Humbre garde dans une immobilité grotesque l'attitude d'un homme que la surprise met debout. Que d'autres soient d'une main amie sous un frais drap blanc disposé pour le repos, celui-ci se lève encore dans sa nuit noire Écoute le cri de ses enfants. Il a encore quelque chose à dire.
Non, son dernier mot n'est pas dit.
Le vieil athlète, percé de 1000 coups, témoigne pour de plus faibles, nomme le traître et la trahison.
Ah, le diable, l'autre, est sans doute un adroit, un merveilleux menteur, ce rebelle entêté dans sa gloire perdue, plein de mépris pour le bétail humain lourd et pensif, que les 1000 ressources de sa ruse excitent ou retiennent à son gré.
Mais son humble ennemi lui fait front, et sous la huée formidable, remue sa tête obstinée.
De quelle tempête de rires et de cris le joyeux enfer acclame la parole naïve, à peine intelligible, la défense confuse et sans art.
Qu'importe, un autre encore l'entend, que les cieux ne scelleront pas toujours.
Seigneur, il n'est pas vrai que nous vous ayons maudit.
Qu'il périsse plutôt ce menteur, ce faux témoin, votre rival dérisoire.
Il nous a tout pris, nous laisse tout nus, et met dans notre bouche une parole impie.
Mais la souffrance nous reste, qui est notre part commune avec vous, le signe de notre élection héritée de nos pères, plus active que le feu chaste incorruptible.
Notre intelligence est épaisse et commune, notre crédulité sans fin, et le suborneur subtil avec sa langue dorée, sur ses lèvres les mots familiers prennent le sens qui lui plaît, et les plus beaux nous égarent mieux.
Si nous nous taisons, il parle pour nous, et lorsque nous essayons de nous justifier, notre discours nous condamne.
L'incomparable raisonneur, dédaigneux de contredire, s'amuse à tirer de ses victimes leur propre sentence de mort.
Périssent avec lui les mots perfides.
C'est par son cri de douleur que s'exprime la race humaine, la plainte arrachée à ses flancs par un effort démesuré.
Vous nous avez jetés dans l'épaisseur comme un levain.
L'univers que le péché nous a ôté, nous le reprendrons pouce par pouce.
Nous vous le rendrons tel que nous le reçûmes, dans son ordre et sa sainteté au premier matin des jours.
Ne nous mesurez pas le temps, Seigneur. Notre attention ne se soutient pas, notre esprit se détourne si vite.
Sans cesse le regard épie à droite ou à gauche, une impossible issue.
Sans cesse, l'un de vos ouvriers jette son outil et s'en va.
Mais votre pitié, elle, ne se lasse point.
Et partout, vous nous présentez la pointe du glaive. Le fuyard reprendra sa tâche ou périra dans la solitude.
Ah, l'ennemi qui sait tant de choses ne saura pas celle-là.
Le plus vil des hommes emporte avec lui son secret, celui de la souffrance efficace, purificatrice.
Car ta douleur est stérile, Satan. Et pour moi, me voici où tu m'as mené, prêt à recevoir ton dernier coup.
Je ne suis qu'un pauvre prêtre assez simple, dont ta malice s'est jouée un moment, et que tu vas rouler comme une pierre.
Qui peut lutter de ruse avec toi?
Depuis que tu as pris le visage et la voix de mon maître, quel jour ai-je cédé pour la première fois?
Quel jour ai-je reçu avec une complaisance insensée le seul présent que tu puisses faire,
trompeuse image de la déréliction des saints, ton désespoir, ineffable à un cœur d'homme?
Tu souffrais, tu priais avec moi, ô l'affreuse pensée, ce miracle même.
Qu'importe, qu'importe, dépouille-moi, ne me laisse rien.
Après moi, un autre, et puis un autre encore, d'âge en âge, élevant le même cri, tenant embrassée la croix.
Nous ne sommes point ces saints merveilles à barbe blonde, que les bonnes gens voient peints et dont les philosophes eux-mêmes
envieraient l'éloquence et la bonne santé. Notre part n'est point ce que le monde imagine. Auprès de celle-ci, la contrainte même du génie est un jeu frivole. Toute belle vie, Seigneur, témoigne pour vous, mais le témoignage du saint est comme arraché par le fer. Telle fut sans doute ici-bas la plainte suprême du curé de Limbre, élevé vers le juge, et son reproche amoureux. Mais à l'homme illustre qu'il est venu chercher si loin, il a autre chose à dire. Et si la bouche noire dans l'ombre, qui ressemble à une plaie ouverte par l'explosion d'un dernier cri, ne profère plus aucun son, le corps tout entier mime un affreux défi. « Tu voulais ma paix ?» s'écrie le saint. « Viens la prendre. »